Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour la quatrième leçon du cours Le droit international de la science. Nous avons atteint la moitié du cours et nous basculons aujourd'hui dans la deuxième partie, dans le deuxième volet du cours. Alors la leçon est intitulée « Des sciences appropriées au bien public international de la science » et le sous-titre, qui était un peu long à reproduire ici, mais qui était important pour que nous sachions tous exactement de quoi nous allons parler, c'est « Critique et réforme du régime de la souveraineté scientifique, de la propriété intellectuelle et du partage des avantages scientifiques en droit international de la santé et de la biodiversité ». Ce deuxième volet du cours sera consacré, je l'ai dit, à la critique et à la réforme de différents régimes du droit international contemporain de la science, à la lumière du droit de l'homme à la science que j'ai tenté de réanimer avec vous ces dernières semaines. Et la première question dont j'aimerais traiter ce matin est celle de l'appropriation, tant publique que privée, des sciences et des moyens que la reconnaissance du bien public international de la science par le droit de l'homme à la science va nous donner pour y remédier. Et vous comprendrez mieux, si vous ne l'avez pas encore compris, l'intérêt qu'avaient et ont aujourd'hui encore de nombreux États à tenter de museler le droit de l'homme à la science. Alors plus précisément, ce que je vous propose de faire dans cette leçon, c'est de critiquer et de réformer divers éléments propriétaires du régime du droit international de la science, que sont, je l'ai dit, la souveraineté scientifique par les États, la propriété intellectuelle sur les savoirs scientifiques par les personnes privées, et le partage des avantages scientifiques entre les États et les personnes privées. Ces trois institutions juridiques sont rarement traitées ensemble, et certains d'entre vous sont peut-être spécialistes de l'un ou de l'autre, et pourtant, ce sera mon argument, c'est bien ensemble que ces trois institutions perpétuent une approche propriétaire des sciences qui est issue du droit international moderne. Alors cette logique propriétaire des sciences remonte, comme je vous l'ai expliqué dans la première leçon, au développement normatif conjoint et sans limite à l'époque du droit international et de la science moderne, et ce dès le XVIIe siècle. Pour mémoire, je vous l'ai dit, c'est cette conjonction des projets normatifs du droit naturel des gens et des lois de la nature des Européens, qui leur a permis de justifier le projet de civilisation du monde et l'appropriation de ses ressources par un droit naturel unique, éternel et universel, d'un côté, mais aussi de justifier l'édification du monde et l'appropriation de ses savoirs dans une science naturelle unique, éternelle et universelle, de l'autre. Et la structure normative qui a permis à l'époque ce développement conjoint et sans limite du droit international et de la science moderne était la même. Elle est malheureusement, vous allez le voir aujourd'hui, en partie encore la même. D'un côté, la liberté de circulation des États, et notamment de navigation et d'appropriation des ressources ou des choses communes considérées comme appartenant à tous, avec en tête le principe de mare liberum, donc de mer libre pour le droit international. Et de l'autre, la liberté de recherche scientifique des États, et notamment d'exploration, d'appropriation des savoirs, considérés comme appartenant à tous, avec le principe correspondant de scientia libera pour la science. Alors avec le temps, bien sûr, vous allez le voir, les formes de cette appropriation des et par les sciences ont évolué. Tout d'abord, l'industrialisation a permis d'y associer beaucoup plus étroitement le secteur privé, et ce, dès le XIXe siècle. Il s'agissait alors d'assurer aux industriels leur propre liberté de circulation et de recherche scientifique. Surtout, il fallait protéger la diffusion de leurs innovations scientifiques par des droits de propriété intellectuelle, en droit interne d'abord, européen ensuite, puis en droit international. Depuis le tournant du millénaire, cet agenda d'industrialisation publique-privée de la science s'est doublé à l'intention du Sud global d'un agenda de développement économique par la technologie et par les investissements publics-privés dans ce domaine. à la colonisation des savoirs et au savoir de la colonisation du XIXe siècle ont donc succédé le développement des savoirs et les savoirs du développement au XXe siècle. Mais comme par le passé, cet agenda, fondé en droit international, favorise les États les plus puissants, économiquement, militairement et scientifiquement, et leurs entreprises respectives. Que l'imaginaire propriétaire soit mobilisé depuis les origines de la science moderne, tant de la part des États que des personnes privées, ne devrait pas nous surprendre. Après tout, la propriété, vous le savez, est l'institution du droit romain, notamment dans le rôle a été central dans la matrice du droit privé occidental, puis à la formation anthropomorphique, à l'image de l'homme, du droit naturel des gens. C'est ainsi que le droit international des États a été construit sur le modèle d'un droit des personnes privées, libre non seulement de se mouvoir, de circuler, mais aussi d'approprier. Et ce lien étroit entre liberté et propriété se retrouve donc aussi en droit international de la science, à la fois dans la liberté de recherche scientifique des États, en tant que liberté d'explorer et d'approprier par le jeu de droit souverain, et dans la liberté de recherche scientifique des personnes privées, en tant que liberté d'explorer et d'approprier par le jeu des droits de propriété intellectuelle. Alors les deux régimes, parce qu'on ne peut pas tout faire malheureusement, enfin on pourrait passer une semaine ici, ce serait sympathique, mais il faut penser à notre bien. Donc les deux régimes avec lesquels je propose de commencer ce travail de réinterprétation du droit international de la science à la lumière du droit de l'homme à la science, sont, je l'ai dit, le droit international de la santé et le droit international de la biodiversité. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, ce sont des domaines dans lesquels l'approche propriétaire des sciences soulève, vous allez le voir, des questions d'actualité importantes. Et vous en avez déjà certainement en tête. Mais ensuite, l'intérêt de ces deux régimes, c'est que de nouveaux traités ont été conclus ou sont en passe de l'être à l'intérieur de chacun de ces domaines, avec des innovations importantes, précisément en matière de protection contre l'appropriation scientifique, et donc des innovations qu'il va falloir évaluer un petit peu ce matin et critiquer aussi, vous le verrez. Alors, dans cette leçon, nous allons voir comment orienter l'interprétation de ces deux régimes en nous fondant sur le droit de l'homme à la science pour tenter de briser un peu, beaucoup, nous verrons, la logique propriétaire en science. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'avenir de la protection contre l'appropriation publique et privée des sciences ne réside pas dans l'élaboration de régimes spécifiques de propriété scientifique, qu'ils soient privés, publics ou communs d'ailleurs, mais bien plutôt, je vais vous l'expliquer, dans le droit et les institutions d'une république universelle des sciences qui ne repose plus du tout sur la propriété des sciences. Alors mon argument procédera en trois étapes. Dans une première partie, je vous expliquerai ce que signifie la qualification de bien public de la science et comment elle permet de confronter et peut-être un jour de défaire la logique propriétaire en science. Dans une deuxième partie, je vous présenterai une critique du régime de la souveraineté et des libertés scientifiques des États en droit international de la biodiversité et de la santé et une proposition de réforme. Et puis enfin, pour boucler la boucle, dans une troisième partie, je vous présenterai une critique du régime de la propriété intellectuelle des personnes privées en droit international de la biodiversité et de la santé, avec une proposition de réforme. Donc un menu alléchant, je l'espère, dans lequel vous devriez trouver votre bonheur à l'une ou l'autre de ces trois étapes. Alors je commence avec mon premier point, la science, un bien public international mal compris. Il y a 15 jours, j'ai défendu l'argument selon lequel la science devrait être considérée comme un bien public, c'est-à-dire un bien dont la valeur n'est pas qu'une somme de valeurs individuelles, celle que la science a pour chaque personne en particulier, mais un bien dont la valeur est aussi collective, et donc un bien ou un intérêt de tous, au sein de chaque communauté scientifique et peuple, mais aussi entre eux. Cette reconnaissance du bien public science, je vous l'ai dit, devrait se faire par le droit public, d'abord national, mais aussi international, donnant naissance à ce que j'ai appelé un bien interpublic de la science. Si cet argument en faveur du bien public commun et participatif de la science, que je vous ai présenté il y a 15 jours, peut paraître banal à une philosophe des sciences, il est plus difficile à faire pour une juriste internationaliste, tant les notions de bien public et de bien commun sont aujourd'hui mal comprises, peut-être à dessein, en droit international. La raison tient à ce que de nombreux régimes de droit international, dont nous allons parler, ont repris les notions de bien public et de bien commun développées par les économistes, notamment lorsqu'il est question de ressources ou de patrimoine commun. Dans la mesure où les sciences sont habituellement considérées instrumentales à l'extraction ou à la gestion de ces ressources communes, il est aisé de comprendre comment la notion économique de bien public ou commun qui les accompagne est parfois transposée en sciences, qui sont alors, elles aussi, traitées comme des ressources communes et appropriables. Alors, dans cette première partie de la leçon, j'aimerais commencer par rappeler la notion institutionnelle des biens publics, que j'ai défendue, et comment elle se distingue de celle des économistes, qui a été retenue malheureusement à tort dans beaucoup de régimes de droit international jusqu'ici. Ensuite, je pourrais préciser en quoi le droit de l'homme à la science a contribué à l'institution du bien public international de la science, et comment cette protection, par le droit de l'homme à la science, s'insère en fait dans une tradition historique de protection de la science contre toute appropriation, qu'elle soit publique ou privée. En fait, elle fait renaître cette tradition. Enfin, dans un troisième temps, je vous expliquerai en quoi la protection des droits de l'homme des créateurs scientifiques, qui figure à l'article 15.1c du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, ne contredit pas du tout, contrairement à ce que l'on pourrait penser et contrairement à ce que certains avancent, la protection de la science comme un bien public international, mais assure au contraire une protection de ses intérêts nécessaires et complémentaires aux droits de l'homme à la science. Alors, je commence avec mon premier point, dépasser la notion des biens publics et des biens communs des économistes en droit international public. Alors, j'ai consacré, dans le cours d'il y a 2 ans, une leçon entière aux biens publics en droit international, et je ne vais pas pouvoir refaire cette leçon ici. Mais en résumé, j'y ai défendu l'argument qu'il faut développer cette conception institutionnelle-normative des biens publics internationaux, c'est-à-dire une conception normative du bien public international qui ne l'isole pas de la question des institutions publiques du droit international, à même d'identifier et de spécifier ce bien comme étant celui d'un public institué par le droit international. Alors, dans cette conception, qui est celle que j'ai reprise il y a 15 jours dans ce cours, le terme « bien public » désigne, je l'ai dit, les biens dont la valeur inhérente réside dans leur dimension collective ou sociale et dans le fait qu'ils sont des biens de tous. Bien entendu, nous le savons, certains biens publics peuvent également présenter une valeur ou un intérêt pour un seul individu à la fois. Mais la qualité de bien public tient au fait qu'ils sont davantage que la somme de ces intérêts individuels pour ce bien. Et c'est en ce sens, comme j'en ai fait l'argument complet dans la deuxième leçon, que la science peut être qualifiée de bien public. Il est dans notre intérêt collectif d'acquérir et de consolider nos connaissances. Il s'agit d'un intérêt collectif des scientifiques répartis en différentes communautés scientifiques, c'est-à-dire ceux qui font de leur participation à la pratique scientifique une profession, une vocation, mais aussi plus largement de nous tous. Et cet intérêt collectif à la science dépasse la somme des intérêts individuels. Il est vrai que nous pouvons profiter de certains bienfaits de la science à titre individuel, nous le faisons tous, ou même mener certaines recherches scientifiques à titre individuel, je le fais quelquefois. Mais à l'instar de la culture, la participation à la science et à ses bienfaits n'a de valeur individuelle que parce qu'elle est aussi le fait d'autres personnes en parallèle ou ensemble. La science ne doit donc être considérée comme ayant une valeur individuelle que de manière diffuse et dérivée de sa valeur collective, de bien public et participatif. Comme je l'ai rappelé aussi il y a 15 jours, il est utile de distinguer une sous-catégorie des biens publics, ce que j'ai appelé les biens communs. La spécificité de ces biens publics communs tient à ce qu'ils ne sont pas seulement dans l'intérêt collectif d'un groupe, mais aussi une responsabilité commune de ce groupe. C'est à cela que fait référence le terme latin « munus », pour charge, fardeau ou responsabilité, dans le terme « communis ». À la différence des biens publics qui font des obligations envers tous, qu'on appelle des obligations erga omnes, les biens communs font donc aussi et en plus des obligations de tous, ou omnium, en bref, des obligations collectives. Et c'est aussi, je vous l'ai dit, le cas de la science, Participer à la science et à ses bienfaits n'est pas seulement dans l'intérêt de tous les membres d'une communauté scientifique et de toute une communauté politique, mais aussi une responsabilité de chacun des membres de cette communauté. Alors cette conception instituto-normative des biens publics et biens communs, que je viens de vous rappeler, qui s'applique à mon avis à la science, contraste clairement avec la conception économique des biens publics. En tout cas avec l'une d'elles qui est devenue prévalente, c'est-à-dire notamment celle de Samuelson de 1954, une conception qui a été reprise ensuite par d'autres économistes, comme Kaul, notamment des économistes du développement. Dans cette conception économiste, les biens publics sont abordés comme des commodités, des ressources ou des produits, en bref des choses. Leur valeur est contingente aux biens ou aux intérêts privés qu'ils servent et est donc prédéterminée par référence à ces biens ou intérêts privés. Ces biens publics ont la particularité d'être non exclusifs, hein, c'est ce qu'on appelle souvent un bien public, c'est-à-dire un bien où l'accès de chacun à ces biens ne peut pas être limité. On dit aussi qu'ils ont la particularité d'être non-rivaux, en ce que la jouissance de ces biens par certains ne met pas en péril celle des autres. Toujours selon cette conception des biens publics non-exclusifs et non-rivaux, le propre de ces biens, et ce qui les distingue des biens privés, c'est d'être difficile à produire et à protéger, notamment contre le risque de passagers clandestins, des « free riders ». Pour les protéger contre ces passagers clandestins, il est nécessaire, selon cette conception, que les États se chargent de leur production grâce à leur pouvoir coercitif et à leurs ressources financières. Et c'est cette dimension de production étatique qui en fait des biens publics. Alors, toujours selon les économistes, les biens communs sont eux aussi un type particulier de biens publics. À ce titre, il s'agit aussi de ressources, mais de ressources dont il faut assurer une gouvernance commune. En effet, leur particularité tient au fait qu'ils sont rivaux dans leur jouissance, d'où la fameuse notion de tragédie des communs, de Hardin, et la question de savoir comment les protéger, sans en limiter l'accès par la privatisation d'une part, et sans réglementation publique d'autre part. C'est dans ce contexte qu'Ostrom a développé son fameux projet de gestion institutionnelle commune des biens communs, une gestion ni publique ni privée. Alors, ce rappel étant fait, vous le comprenez, la conception des économistes, en tout cas cette conception majoritaire que j'ai tenté de résumer, diffère de la conception proposée ici des biens publics et des biens communs sur au moins quatre points. Premièrement, la conception économique des biens publics définit leur valeur de manière contingente, exclusivement par référence et par opposition, aux biens ou à l'intérêt privé préexistant, et surtout un intérêt privé individuel. Deuxièmement, elle aborde les biens publics de manière instrumentale en tant que ressources ou marchandises qui doivent être et peuvent être produites. Troisièmement, le droit et les institutions nationaux et internationaux sont considérés uniquement comme des instruments de production de biens publics et non comme des éléments constitutifs de ces biens. Enfin, les biens publics sont définis comme des résultats ou des produits finaux par référence à la non-exclusion et à la non-rivalité dans leur consommation, plutôt que comme des pratiques continues d'acquisition et de consolidation. Donc il est facile de voir, à mon avis, à quel point une compréhension des biens publics et communs de ce type peut être problématique lorsqu'elle est appliquée à des biens protégés par le droit international des droits de l'homme. Par définition, en effet, lorsqu'un intérêt individuel ou collectif sur un bien public est protégé par un droit de l'homme, il l'est de manière inhérente. Il est de manière non instrumentale à un autre intérêt ou bien privé. Il l'est aussi de manière à devenir permanent et inaliénable, et il ne peut donc alors ni être perdu, ni être cédé à autrui. Et cela vaut donc, par excellence, aussi pour la science, en tant qu'elle est l'objet du droit de l'homme à participer à la science et à ses bienfaits, comme j'en ai fait l'argument ces dernières semaines. Considérer la science comme un bien public ou comme un bien commun au sens économique du terme permettrait bien au contraire de ce que demande le droit de l'homme à la science, de traiter la science ainsi que ses bienfaits comme un pur instrument au service d'intérêts privés, y compris d'autrui, d'une part, et comme une ressource à produire et à gérer, voire comme un produit fini, d'autre part. La conception institutionnormative des biens publics et des biens communs, désormais rappelée, est distinguée de celle des économistes. Pourquoi le droit international fait-il usuellement référence à cette dernière, y compris dans le domaine scientifique? Pourquoi est-ce qu'une voix comme la mienne, finalement, n'est pas entendue du tout? Eh bien, l'affaire remonte aux années 90. Sous le titre de biens publics mondiaux, ou globaux, les global public goods, la notion économique des biens publics a fait son entrée en politique internationale avec les rapports successifs du Programme des Nations Unies pour le Développement en 1999, 2002, 2006. Elle a ensuite été reprise à l'identique avec un écho magnifié par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et diverses organisations de développement dans leur sillage, jusqu'à devenir aujourd'hui irrésistible, y compris à l'UNESCO et y compris à l'Organisation mondiale de la santé. J'y reviendrai. Le terme « bien commun » des économistes est lui aussi aujourd'hui consacré en droit international public. Au lieu de penser les biens communs sur le modèle que je vous ai présenté, c'est le modèle économique des biens communs qui est repris par le droit international. Ainsi, le droit international de l'environnement a-t-il recours au terme « bien commun », y compris au terme « bien commun » au pluriel, pour désigner à la fois des intérêts, des espaces hors juridiction nationale, ou encore des ressources au sein de ces zones ou de ces espaces, des ressources qu'on va appeler le patrimoine commun de l'humanité, comme les hauts fonds marins, ou la Lune, les corps célestes et les astéroïdes. Si la première catégorie, cette notion d'intérêt commun, s'aligne potentiellement sur la notion institutionnormative de bien commun que je vous ai présentée, la deuxième et la troisième reprennent malheureusement la notion économique des biens communs qui était en cours dans les années 60. C'est en effet cette notion économique des biens communs qui était à l'époque défendue par des personnages influents comme Hardin ou Pardoe qui est devenue prévalente au moment de la conception originelle du droit international de la mer et de l'espace, et puis ensuite d'autres domaines du droit de l'environnement dont je vous reparlerai. Alors certes, la notion de patrimoine commun dans cette conception économique du bien commun des années 60 se distingue tout à fait intentionnellement, et c'est une bonne chose, de la notion de chose commune du droit romain, une chose qui serait propriété de tous et à la disposition de tous. Mais cette notion de patrimoine commun s'impose par le biais d'une protection contre le libre accès et la libre appropriation, mais elle le fait sans mettre fin à l'exploitation de ces ressources, qui passe alors par une organisation commune de l'exploitation et la redistribution équitable des fruits de cette exploitation. Ce qu'on peut dire, et je reviendrai longuement là-dessus tout à l'heure, c'est que la notion de patrimoine commun des années 60, qui est demeurée aujourd'hui dans ces régimes, participe donc encore d'une économie propriétaire des biens communs, plutôt que d'un régime de protection de ces biens contre toute appropriation publique ou privée. Et j'y reviendrai dans la deuxième partie de la leçon. Alors, quid des sciences dans ce tableau? Eh bien, dans la mesure où les sciences sont instrumentales à l'extraction des ressources du patrimoine commun, ce patrimoine commun de la mer ou de l'espace, il est aisé de comprendre comment la notion économique qui accompagne ce patrimoine commun a été transposée en sciences qui sont depuis lors, elles aussi, traitées comme des ressources par le droit international. Des ressources qu'on appelle évidemment publiques ou communes, mais des ressources tout de même qu'on peut exploiter, redistribuer, et donc à l'opposé de la notion de bien public et de valeur collective inhérente des sciences. Mais me direz-vous, que faire ? À 10h24, ce jeudi matin. Que faire pour protéger la science contre cette conception économique des biens publics et communs qui est désormais, je vous l'ai dit, rampante en droit international de la science? Eh bien, c'est précisément un rôle que pourrait endosser le droit de l'homme à la science, auquel on pourrait, enfin, donner ce rôle d'institution du bien public international de la science. Alors, ce sera mon deuxième point. Lorsque l'approche économique des biens publics et des biens communs trouve à s'appliquer à la science, au cœur de différents régimes du droit international, notamment de l'environnement. Elle contredit, à mon avis, fondamentalement, la protection qu'offre le droit international des droits de l'homme à la science depuis 1948, et ce sous la forme du droit de l'homme à participer à la science et à ses bienfaits. C'est en effet précisément à la possibilité d'appropriation, tant publique par l'État que privée par des personnes physiques ou morales sur un marché, que la garantie et l'institution du bien public commun et participatif de la science par le droit de l'homme à la science a permis de mettre fin et de poser enfin une limite. Souvenez-vous du consensus sur l'institutionnalisme scientifique des années 40, dont je vous avais dit qu'est issu le droit de l'homme à la science, et de la reconnaissance à l'époque, notamment par Robert Merton, dont vous avez ici à nouveau l'extrait dont nous avons longuement parlé à l'écran, de la reconnaissance à l'époque de la nécessité de protéger la science contre son instrumentalisation, tant par l'État que par le marché. Alors c'est tout d'abord dans son objet que le droit de l'homme à la science protège quatre dimensions de la publicité de la science, qui sont autant de dimensions du bien public de la science. Premièrement, le droit de l'homme à la science protège la valeur inhérente de la science pour la personne humaine, le chercheur individuel, comme les communautés scientifiques. Et donc, par extension, ce droit de l'homme à la science protège leur intérêt à participer à la science contre toute forme d'instrumentalisation, publique ou privée, y compris commerciale. Je pense que c'est assez évident. Donc la valeur inhérente de la science en tant qu'elle est protégée par le droit de l'homme à la science, mais la science hors marché. Deuxièmement, le droit de l'homme à la science protège une science collective, et donc une science qui n'est plus individualisable et privatisable, ou seulement de manière diffuse et dérivée. Troisièmement, le droit de l'homme à la science protège une science culturellement et historiquement située et contextualisée, et donc contre la séparation des savoirs de leur contexte culturel et historique, en petites monades scientifiques et sans reconnaissance de leurs origines. Enfin, le droit de l'homme à la science protège une science publique, instituée et garantie par le droit public, qui ne peut donc plus être soumise au droit privé et à ses institutions seules, comme la propriété ou le contrat. C'est ensuite dans son contenu que le droit de l'homme à la science protège un accès et une participation à la science qui doit demeurer libre et égalitaire, ce qui implique d'assurer que la science demeure ouverte et sans appropriation aucune. C'était d'ailleurs ici aussi le sens du terme communisme de la science qui était utilisé dans le kudos de Merton, ici dans cet écrit de nouveau. Pour Merton, c'est une des quatre dimensions de l'éthos scientifique que de maintenir ce communisme scientifique. Ce n'est qu'en demeurant dans le domaine public, nous dit Merton, que la science peut être débattue et demeurer contestable en tout temps, une autre dimension du kudos selon lui. En fait, l'idée est bien sûr très ancienne. En se basant sur une interprétation biblique, certains savants du XIIe siècle, déjà, considéraient que « scientia donum Dei est, unde vendi non potest », le savoir est un don de Dieu, il ne peut donc être vendu. Alors curieusement, et c'est regrettable, la pratique onusienne du droit de l'homme à la science n'a encore que peu traité de la dimension de bien public de ce droit. Il y est bien sûr fait mention, parce que c'est un ressort argumentatif très puissant, vous l'aurez senti ce matin. Et donc il y est fait référence, ici et là. Il y est fait référence, par exemple, ici, dans la recommandation de l'UNESCO de 2017 concernant la science et les chercheurs scientifiques. Il y est aussi fait référence ici, dans la recommandation de l'UNESCO 2021 sur une science ouverte. Et il y est fait référence, enfin, dans tous les rapports de la rapporteuse spéciale pour les droits culturels depuis 2012. Je vous ai déjà parlé de six différentes sources, donc je ne vous les réexplique pas maintenant, mais vous voyez que le langage du bien public et du bien commun est partout, omniprésent, comme un ressort argumentatif ou symbolique dans ces différents documents. Et pourtant, jamais, dans ces documents, les termes utilisés, bien public ou bien commun, sont-ils définis ? Surtout, et là je vous montre un exemple, ils sont utilisés dans des sens très différents, y compris dans le sens économique du terme de bien public et de bien commun que j'ai critiqué tout à l'heure. Alors cette confusion, si on peut la comprendre au vu de l'état du droit international sur la question des biens publics et des biens communs, doit nous inquiéter tout particulièrement sur le droit de l'homme à la science. En effet, une approche économique du bien public et commun de la science ne permet véritablement pas de s'extraire de la logique propriétaire, tant publique que privée d'ailleurs, qui est à l'œuvre en droit international de la science. Et cette confusion, cette approche économique, notamment du bien public et du bien commun de la science, risque, si l'on n'y prête pas garde, de priver le droit de l'homme à la science de tout effet à cet égard. Et ce d'autant plus, et les choses deviennent un petit peu techniques, vous allez voir, que l'article 15.1c, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé dans ce cours, du PIDESC, que vous avez ici à l'écran, donc c'est le paragraphe 1, lettre C ici à l'italique, ce paragraphe garantit le droit à la protection des intérêts moraux et matériels des créateurs scientifiques. Alors pour beaucoup, à la lecture de ce texte, eh bien protéger le droit des créateurs scientifiques dans leurs intérêts moraux et matériels, protéger ces droits communs des droits de l'homme, et qui plus est dans le même article que le droit de l'homme à la science, qui est garanti au l'article 15.1b, semble reconnaître que les droits d'auteur, et par extension les droits de propriété intellectuelle, sont des droits de l'homme, après tout, des droits de l'homme au même titre que le droit de l'homme à la science. Donc une confusion autour du terme bien public, bien commun, lardée d'une conception économique, et puis un article 15.1c qui finalement semble faire entrer le discours de la propriété intellectuelle, tout proche de l'article 15.1b dans l'article 15.1c. Donc à côté du droit de l'homme à la science, il y aurait, en tout cas à première vue, un droit de l'homme à la propriété intellectuelle. Est-ce à dire que la garantie de la science contre son appropriation aurait été, après tout, rattrapée par la logique propriétaire en science, et ce, dès les origines du droit de l'homme à la science en 1948? Alors, sans surprise, vous me connaissez, la réponse est non. Et le démontrer sera l'objet de la prochaine section. Mon troisième point, le droit de l'homme des créateurs scientifiques. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, le droit des créateurs scientifiques est protégé à l'article 15.1c du pacte sous la forme d'un droit voisin, frère, on peut dire, du droit de l'homme à la science. Ces droits des créateurs scientifiques, comme je les appellerai pour les distinguer des droits d'auteur, du droit de la propriété intellectuelle, méritent, il est vrai, et vous allez le comprendre, d'être protégés plus activement que cela n'a été le cas à ce jour. Ils constituent en effet un complément essentiel au droit de l'homme à la science, d'où le fait qu'ils apparaissent à côté de lui. Mais avant de vous présenter le potentiel de ces droits complémentaires des créateurs scientifiques, il faut commencer par mieux les distinguer des droits de propriété intellectuelle privée sur la science, avec lesquels on pourrait les confondre et avec lesquels certains aiment les confondre. Alors premièrement, considérer que le droit de l'homme à la science garantit la science comme bien public non appropriable, ce qui est ma position, ne revient pas à considérer que les intérêts matériels des scientifiques sur leur travail ne puissent pas aussi être protégés. Après tout, moi-même, je bénéficie d'une protection des intérêts matériels sur mon travail. C'est une distinction que nous faisons depuis des siècles. Même si, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, certains savants du XIIe siècle considéraient que parce que le savoir est un don de Dieu, il ne peut être vendu, la rémunération des scientifiques, et notamment des professeurs d'université, n'a jamais été contestée. La science, le savoir qui ne peut pas être vendu, doit être distingué du travail qui est investi dans l'enseignement ou dans les publications, travail qui, lui, pouvait être rétribué. Et cette distinction entre science et travail s'est perpétuée lorsque l'invention de l'imprimerie a ouvert aux scientifiques la possibilité de percevoir une rémunération pour la diffusion de leurs œuvres. Depuis lors, l'on distingue leurs droits matériels ou réels sur leurs livres ou sur leurs créations en tant qu'objets matériels cessibles et sources de revenus, et leur droit moral ou personnel sur leur savoir, qui, lui, serait incessible, hors marché, car hors de prix. Alors la dématérialisation aujourd'hui en cours des objets matériels, par la digitalisation des supports, ne change rien à cette distinction, même si elle complique, bien sûr, un petit peu les choses. Et c'est à ce titre que l'article 15.1c protège les intérêts matériels des créateurs scientifiques et en fait un droit de l'homme à part entière. Cette première partie du droit des créateurs scientifiques, ce droit voisin du droit de l'homme à la science, fonde une obligation des États de veiller à permettre à ces créateurs de gagner leur vie par la création scientifique et de protéger l'intégrité de leur travail créateur de manière à pouvoir en vivre dignement. À ce titre, la dimension matérielle du droit de l'homme des créateurs scientifiques est à droit voisin d'un autre droit de l'homme, le droit au travail, de l'article 6 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors la difficulté, c'est que l'article 15.1c du Pacte ne protège pas que les intérêts matériels des auteurs de production scientifique, mais aussi leurs intérêts moraux. Et c'est ici que les esprits se troublent, habituellement. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. En effet, la formulation du droit moral des créateurs scientifiques se rapproche dangereusement de celle du droit moral des auteurs en droit de la propriété intellectuelle et beaucoup peinent désormais à les distinguer. Il est vrai que, littéralement du moins, ces intérêts et droits moraux de l'article 15.1c ressemblent à s'y méprendre aux droits moraux de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, telle qu'elle a été révisée en 1928 à Paris, et dont le contenu a été repris et fortifié depuis en droit international de la propriété intellectuelle. Alors pour comprendre leur différence, la différence entre les droits moraux des créateurs scientifiques de l'article 15c et les droits moraux de propriété intellectuelle de la Convention de Berne, pour comprendre leurs différences parce qu'ils sont différents, il nous faut replonger dans l'histoire du droit de l'homme à la science, une histoire à laquelle je vous avais déjà introduit il y a de cela 15 jours. Les origines de la formulation de l'article 15.1c du Pacte sont en effet à rechercher dans celle de l'article 27.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que vous avez ici à l'écran. Et ce sont les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui vont nous éclairer sur les véritables origines du droit des créateurs scientifiques de l'article 15.1c du Pacte. La clé du mystère, si je puis dire, se trouve dans l'influence qu'a eue la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948 sur la préparation de la Déclaration universelle des droits de l'homme d'une part, et l'influence qu'a exercée à son tour la Déclaration de Philadelphie de 1944 sur la préparation de la Déclaration américaine d'autre part. Donc on a comme ça un jeu d'enchâssement ou de poupées russes qui vont vous expliquer comment on en est venu à cette formulation particulière. Alors commençons par le début. L'article 27 reprend quasiment mot pour mot la formulation de l'article 13 de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, dont je vous avais déjà dit qu'elle avait beaucoup influencé la préparation du projet de Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la même chose vaut pour le paragraphe 2 de ces deux articles, qui sont vraiment à l'identique. L'article 13.2 de la Déclaration fait référence non seulement aux intérêts matériels, mais aussi aux intérêts moraux des auteurs de productions scientifiques. Mais s'il le fait, ce n'est pas par référence aux droits moraux des auteurs de la Convention de Berne de 1928, mais plutôt par référence à la Déclaration de Philadelphie de l'Organisation internationale du travail de 1944, dont vous avez ici l'extrait. L'article 2A de cette Déclaration de 1944 propose en effet quelque chose qui est nouveau et fondamental à l'époque, c'est-à-dire protéger ensemble tant le progrès matériel que le développement spirituel des personnes humaines. Et c'est cette protection des droits des créateurs à deux pans, en tant que développement à la fois moral ou spirituel et matériel, que les auteurs de la Déclaration américaine souhaitaient faire figurer à l'article 13.2 de la Déclaration. C'est tout en tout cas ce qui ressort des travaux préparatoires de la Déclaration américaine, et je suis ici la lecture de ma collègue Aurora Plomer à ce sujet. Cette interprétation historique est d'autant plus plausible que les États d'Amérique latine, derrière la Déclaration américaine, n'étaient pas partis à la Convention de Berne sur les droits d'auteur. Surtout, ils ne pratiquaient pas les droits d'auteur. Ils n'avaient pas adhéré à la distinction française entre droits moraux et matériels, reprise par la Convention de Berne. Il est donc tout à fait improbable que l'intention des auteurs de la Déclaration américaine ait été de coucher les droits moraux d'auteur de la Convention de Berne à l'article 13.2 de la Déclaration américaine. Mais ce qui demeure à expliquer, c'est le maintien du texte de l'article 13.2, une fois retranscrit à l'article 27.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, bon nombre d'États à l'époque, et on le voit dans les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis, ont rapidement, et à juste titre, émis des objections sur ce deuxième paragraphe. Leurs arguments contre cette insertion étaient d'une part précisément le risque de confusion entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de l'homme, et d'autre part l'incompatibilité des droits moraux exclusifs et cessibles d'auteurs de la Convention de Berne avec la dimension égalitaire et inaliénable des droits de l'homme. Et sans surprise, parce que ces arguments étaient bons, le vote sur 27 paragraphe 2 a été beaucoup plus serré que le vote sur 27 paragraphe 1. Et l'on doit le maintien de ce paragraphe 2 à la détermination de quelqu'un que nous avons déjà rencontré dans ce cours, c'est le représentant français au moment de la négociation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire René Cassin. C'est déjà René Cassin, vous vous en souvenez, qui s'était battu pour la formulation du droit de l'homme à la science de l'article 27.1 et la reconnaissance du droit de participation de tous à la pratique scientifique. En fait, c'est précisément parce que Cassin considérait la science comme un bien public participatif qu'il était essentiel pour lui de protéger de manière complémentaire et distincte du droit de l'homme à la science les droits personnels des créateurs scientifiques participant à la pratique scientifique contre l'appropriation éventuelle de leur création par d'autres participants dans cette même pratique. Mais indépendamment de cette interprétation historique que je viens de vous proposer, des droits de l'article 15.1c du pacte, il y a, je pense, aussi d'autres raisons pour lesquelles les droits des créateurs scientifiques ne devraient pas être confondus avec des droits de propriété intellectuelle. D'une part, les droits d'auteur et de brevet sont des droits exclusifs, temporaires et cessibles, et à ce titre, ils ne peuvent pas être considérés comme des droits de l'homme, qui sont par définition égalitaires, permanents et inaliénables. Les droits d'auteur peuvent bien sûr contribuer à la protection des droits des créateurs scientifiques. On peut même espérer qu'ils le fassent. C'est le cas, par exemple, de la protection de l'intégrité ou de l'attribution d'une création scientifique à son auteur. Mais lorsque les droits d'auteur entrent en conflit avec les droits des créateurs scientifiques, comme nous le verrons tout à l'heure, eh bien, il est impératif de ne pas les traiter sur un même pied, de ne pas les traiter comme des droits égaux aux droits de l'homme, avec toutes les conséquences que cela implique. J'y reviendrai. Deuxième raison, il est essentiel de comprendre que la meilleure protection contre l'appropriation publique ou privée d'un bien public comme la science ne peut pas et ne doit pas, pour des raisons évidentes, être la propriété scientifique. Qu'elle soit privée ou publique, d'ailleurs. Outre le fait qu'elle contredise l'idée même de bien public applicable à la science, la propriété n'est pas un statut juridique applicable par défaut, y compris à la science. Par ailleurs, même une propriété dite commune de la science, comme elle était proposée au XIXe siècle déjà, demeurait un régime de propriété et donc un régime qui en exclurait celles et ceux qui ne sont pas propriétaires parce qu'ils appartiennent à d'autres communautés scientifiques ou à d'autres États. Surtout, même la propriété scientifique commune, au sens du XIXe siècle, permettrait l'exploitation et la monétisation de la science et ferait de la science une ressource. Deuxième point, la distinction des droits créateurs scientifiques désormais faite par rapport aux droits de propriété intellectuelle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les droits personnels des scientifiques en tant que créateurs méritent d'être protégés spécialement sous la forme de droits de l'homme, de manière complémentaire aux droits de l'homme à la science, à l'article 15. Les droits des créateurs scientifiques visent à protéger ce que j'ai identifié dans la deuxième leçon comme des intérêts individuels diffus ou dérivés de l'intérêt collectif à participer à la science. Dès lors, si vous m'avez suivi à ce moment-là, si la dimension institutionnelle de la pratique scientifique doit être protégée par le droit de l'homme à la science, sa dimension personnelle doit l'être aussi, et de manière complémentaire à la première. D'ailleurs, la protection de l'une ne devrait pas se faire au détriment de l'autre, au risque de les appauvrir toutes les deux. En effet, ces deux dimensions se renforcent mutuellement. La protection des droits personnels des créateurs sur leur création scientifique, et surtout l'attribution de ces créations à leurs créateurs, contribue à renforcer les droits institutionnels de ces mêmes créateurs en tant que participants à la pratique scientifique collective, et vice-versa. C'est déjà ce que nous disait Merton autour du communisme de la science et de l'absence de propriété scientifique, lorsqu'il insistait sur l'importance de la reconnaissance du créateur scientifique pour la dynamique interne à la pratique scientifique. Cette protection distincte mais complémentaire des droits de personnalité des créateurs scientifiques explique d'ailleurs leur place au deuxième paragraphe de l'article 13 de la Déclaration américaine et de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, avec tous les compromis qui ont dû être faits en 1966, donc je vous avais parlé il y a 15 jours, ces droits se sont retrouvés non plus dans un deuxième paragraphe englobant et complétant le premier, ils se sont retrouvés en troisième position, dans cette lettre C de l'article 15.1, ce qui rend, je le concède, les choses un petit peu moins lisibles. Mais j'espère au moins que cette explication historique et normative vous aura un petit peu éclairé sur la manière de les comprendre. D'ailleurs, il me semble que cette mise à l'écart des droits de la lettre C, des discussions récentes du droit de l'homme à la science, est tout à fait regrettable. Il y a bien eu une observation générale du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels sur cette lettre C, c'est l'observation générale 17, mais cette observation générale, elle date d'il y a près de 20 ans, et même si elle a eu le mérite de bien distinguer les droits des créateurs scientifiques des droits de propriété intellectuelle, il n'y a pas eu de discussion approfondie des nombreux liens à entretenir entre le droit de l'homme à la science et les droits des créateurs scientifiques dans l'observation générale de 2020. En fait, comme les autres droits scientifiques, les droits des créateurs scientifiques de 15.1c ne sont pas individuels uniquement. Ils peuvent être corporatifs aussi et appartenir dès lors aux communautés scientifiques. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'ils appartiennent aussi en tant que droits corporatifs à des communautés scientifiques qu'ils peuvent être reconnus à des personnes morales à but lucratif. Comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, malgré l'implication grandissante du secteur privé dans la recherche, les entreprises ne sont pas des communautés scientifiques. La poursuite d'un objectif commercial est incompatible avec le désintéressement scientifique, l'un des principes constitutifs de la structure normative des sciences, selon Merton. En revanche, les communautés scientifiques locales et autochtones peuvent-elles bénéficier des droits de créateurs scientifiques ? Et en fait, comme j'en ferai l'argument tout à l'heure, elles en tireraient grand bénéfice pour lutter contre leur soumission aux droits de propriété intellectuelle. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, Cette première partie étant maintenant en place, je peux passer à la deuxième partie de la leçon et au premier des deux volets de critique et de réforme de la logique propriétaire sur la science en droit international de la santé et en droit international de la biodiversité. Dans cette deuxième partie que j'entame à présent, je vous propose de critiquer et de réformer la dimension propriétaire du droit international de la santé et du droit international de la biodiversité en commençant avec une réinterprétation du régime d'appropriation publique des sciences par les États. Les États sont les premiers à se rendre responsables de cette appropriation en vertu du droit international. Alors je procéderai en deux étapes. D'abord la critique et la réforme du régime qu'on appelle le régime de souveraineté scientifique des États et du partage des avantages scientifiques entre États sur leur territoire ou sous leur juridiction en droit international de la santé. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai le même exercice en droit international de la biodiversité, cette fois-ci, en ne prenant plus comme objet la question de la souveraineté scientifique, parce que le droit international de la biodiversité, nous allons le voir, s'applique surtout dans les espaces qui ne relèvent pas de la juridiction des États. Et là, la logique propriétaire, en fait, est le fruit de la liberté de recherche scientifique et du partage des avantages scientifiques entre États. Alors, je commence avec la première. La souveraineté scientifique des États sur leur territoire et sous leur juridiction et les limites du partage des avantages scientifiques en droit international de la santé. Il est très commun aujourd'hui, dans la presse, mais aussi en droit, de se référer à la souveraineté scientifique des États. Une souveraineté des scientifiques des États sur la science, comme on se réfère à leur souveraineté territoriale sur leur territoire, ou leur souveraineté personnelle sur leurs ressortissants. En soi, le juriste décèlera ici tout de suite un abus de langage. En effet, le terme « souveraineté » ne devrait pas être utilisé pour faire référence à un simple pourvoir ou à un simple contrôle sur un bien public. Au contraire, la souveraineté est une autorité justifiée, c'est une autorité limitée par le droit de l'État sur les personnes sous sa juridiction, y compris par extension sur le territoire où ces personnes se trouvent. Mais ce n'est pas cette facilité de langage qui retiendra mon attention ici, même si à l'avenir je pourrais, je l'espère, consacrer un cours à la souveraineté. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le raccourci qui est fait entre la souveraineté de l'État sur des personnes et un territoire et la souveraineté sur la science en tant qu'elle est le fait des personnes qui ont la nationalité de cet État ou qu'elle se poursuit sur son territoire. Il ne s'agit pas, bien sûr, ici, de contester la souveraineté de l'État sur les personnes qui se situent sous sa juridiction, dont toutes les personnes qui sont impliquées dans la pratique scientifique. Après tout, la souveraineté des États, c'est la condition de la protection effective des droits de l'homme de ces personnes. Et cela vaut aussi pour la protection effective du droit de l'homme à la science. C'est parce que les États sont souverains et que nous protégeons leur souveraineté qu'ils peuvent et doivent adopter du droit national et international de la science qui permettent d'instituer, d'organiser, de protéger et de limiter la science. Non, mon propos ici est plutôt de contester la transformation de cette souveraineté en un droit de propriété publique de l'État sur la science. Et à nouveau, ce qui va permettre ce glissement, c'est la confusion historique entre le bien public au sens institutionnel-normatif d'un bien dont la valeur est collective et le bien public en tant que chose publique, une chose qui appartient à tous. Pensez par exemple au raccourci qui est fait parfois, y compris par nos gouvernements, entre le financement public d'un projet scientifique et la propriété publique de l'État qui finance sur ses résultats. La reconnaissance d'un tel droit de propriété publique sur la science entre en contradiction avec le droit de l'homme à la science, et notamment avec l'autonomie des communautés scientifiques, et le droit de participer librement et également à la recherche scientifique et à ses bienfaits, mais aussi avec les droits personnels des créateurs scientifiques sur leur création. Et pourtant, Cette approche de la souveraineté scientifique est aujourd'hui répandue et même ancrée en droit international de la science. Je ne prendrai qu'un seul exemple, parce que nous devons choisir, celui de la souveraineté scientifique en matière de patrimoine génétique, en droit international de la biodiversité, et par extension, nous allons le voir, en droit international de la santé. Le principe de souveraineté scientifique s'est imposé progressivement dans ces deux régimes en réaction à quelque chose, en réaction à l'appropriation privée de la science et à l'emprise des droits de propriété intellectuelle des personnes privées, notamment des entreprises, et notamment des brevets sur des séquences génétiques. Et la résistance à ces brevets et à ces droits de propriété intellectuelle privée est venue des États en développement qui ont alors revendiqué leur souveraineté sur leurs ressources scientifiques, y compris sur leurs ressources génétiques pathogènes, pour se défendre. Et pour se défendre, eh bien, ils ont construit la souveraineté scientifique comme extension de leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles. Et le même raisonnement a été utilisé pour mieux protéger les droits des peuples autochtones, non seulement sur leurs ressources naturelles, mais aussi sur les savoirs liés à ces ressources, contre les brevets qui étaient posés sur ces savoirs. Alors c'est ainsi qu'en 1992, l'article 3 de la Convention sur la diversité biologique protège les droits souverains des États sur leurs ressources, y compris scientifiques. L'accès à ces ressources par d'autres États n'est alors plus possible, selon la Convention, qu'avec l'accord de ces États, ce qu'on voit à l'article 15. Et le principe qui est adopté pour organiser cet accès consenti aux ressources génétiques, et notamment donc, génétiques conçues au sens scientifique, est celui, vous le voyez ici à l'article 19, celui du principe de l'accès et du partage des avantages. C'est ainsi que se sont développés, ensuite sur la base du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, qui a été adopté en 2010 en complément de la Convention sur la diversité biologique. C'est ainsi que se sont développés sur la base et dans le cadre de ce protocole divers mécanismes de partage de ces avantages scientifiques. Le problème, c'est que ces mécanismes reposent avant tout sur des contrats bilatéraux entre États ou entre États et personnes privées, et sur la monétisation des avantages, du moins des échanges en nature, comme un retour d'avantages sous forme de médicaments ou d'autres produits médicaux. Pourquoi en est-on venu là et pourquoi est-ce que ce système a été adopté? Eh bien, l'opinion majoritaire à l'époque était que le recours aux mécanismes du marché dans les rapports scientifiques entre États permettrait de financer la protection de la biodiversité dans les États d'origine. On sait aujourd'hui qu'il n'en a rien été et que le système d'accès et de partage des avantages scientifiques, en tout cas dans sa formulation de Nagoya, n'a fait qu'appauvrir encore les États en développement et creuser davantage les inégalités scientifiques entre États. D'ailleurs, pour ne rien arranger, ce mécanisme d'accès et de partage des avantages scientifiques a été repris récemment en droit international de la santé. C'est le cas dans le projet de futur accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies, un projet qui est négocié, vous le savez, en ce moment à l'Organisation mondiale de la santé. Le mécanisme d'accès et de partage des avantages scientifiques s'appliquera ici aux ressources biologiques, y compris humaines et virales, et toutes les connaissances scientifiques associées. Et la contrepartie se fera sous forme de produits médicaux, comme les médicaments ou les vaccins. Si ce mécanisme est retenu, et on sait qu'il est contesté, les conséquences seront désastreuses. En effet, les États les plus intéressés à obtenir un accès aux bienfaits de la science pour leur population seront encouragés par le jeu de la concurrence entre propriétés scientifiques publiques et avantages privés, à favoriser le partage le plus minimal possible de leurs ressources génétiques et scientifiques, car le moins coûteux pour eux dans ce jeu du marché. Et à l'inverse, les entreprises pharmaceutiques seront-elles encouragées à offrir la contrepartie médicamenteuse ou vaccinale la moins importante possible en échange de ces ressources scientifiques. La dématérialisation des données génétiques, qui est désormais en cours, ne fera d'ailleurs que faciliter ces transactions commerciales autour des ressources génétiques, y compris en facilitant leur traitement par la propriété intellectuelle privée. Il est dès lors très difficile, vous le concéderez, d'imaginer qu'un tel mécanisme d'échange des avantages scientifiques puisse amener à une prévention non seulement juste, mais aussi efficace de la prochaine pandémie. Si l'on saisit bien l'enjeu de la souveraineté scientifique pour l'autodétermination scientifique des États du Sud global et des peuples autochtones, et je ne le nie pas, il y a d'autres moyens plus respectueux du bien public de la science et du droit de l'homme à la science pour ce faire qu'un régime de propriété publique des États sur la science, avec à la clé, on l'a vu, un programme de commercialisation de ces ressources scientifiques souveraines. Un véritable programme de partage des savoirs scientifiques médicaux, sans remise en cause de la valeur inhérente de ces savoirs, pourrait être et devrait être développé sur la base du droit de l'homme à la science au sein de l'Organisation mondiale de la santé à l'avenir. D'ailleurs, et je vous en avais déjà parlé, le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 1946, donc 2 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, faisait déjà référence, avant l'heure, au droit de l'homme à la science, puisque vous voyez qu'il fait référence au droit d'accéder et de participer aux bienfaits de la science. Au sujet de ce partage des savoirs, qui ne nierait pas la valeur inhérente de ces savoirs, j'ai déjà expliqué la semaine dernière comment nous pourrions comprendre le contenu de l'obligation de coopération scientifique internationale qui est posée par le droit de l'homme à la science à l'article 15, paragraphe 4 du pacte. J'ai aussi évoqué dans le cours de la semaine dernière différents moyens par lesquels nous pourrions organiser une coopération scientifique internationale équitable et participative à l'avenir. Donc je vous renvoie à la leçon de la semaine dernière. Mais voyons précisément maintenant quels sont les derniers développements du droit international de la biodiversité, toujours en matière de partage des avantages scientifiques, mais cette fois plus dans les espaces ou dans les territoires qui relèvent de la juridiction d'un État et donc de sa souveraineté, mais dans des espaces qui ne relèvent pas de la juridiction des États, et ce sera mon deuxième point. Dans les espaces qui ne relèvent pas de la juridiction des États, d'abord la haute mer, les États bénéficient depuis les origines du droit naturel des genres devenu droit international moderne, d'une liberté de navigation et d'exploration. C'est, je vous l'ai dit, le fameux principe du mare liberum, de la mer libre, consacré par Grotius. Ce principe, je vous l'ai dit aussi, fait écho à l'idée du droit romain, reprise par le droit naturel moderne, celui de la chose commune, une chose qui appartient à tous et qui est donc en libre accès. En matière de recherche, ce principe a un pendant, celui de la science libre, ou la liberté de recherche et d'exploration scientifique. La liberté de la recherche scientifique des États, je ne parle pas de la liberté de recherche scientifique en tant que droit de l'homme ici, j'en parle en tant que liberté de recherche scientifique des États, vaut aujourd'hui encore, comme au XVIIe siècle, au sein de ces espaces. Il s'agit des espaces marins, je l'ai dit bien sûr, mais aussi des espaces polaires, arctiques, antarctiques, et enfin bien sûr être extra-atmosphérique. On le voit à l'article 1.3 du traité sur l'espace, qui garantit cette liberté de recherche scientifique des États, à l'article 6.1 du traité sur la Lune, 79, à l'article 87.1f de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 82, et tout récemment, l'an dernier, dans l'accord BBNJ sur la biodiversité dans les espaces qui se trouvent au-delà de la juridiction des États, à l'article 7c. Donc vous voyez que cette liberté de recherche scientifique des États est extrêmement bien ancrée en droit international de la science. Comme la liberté de navigation et d'exploration générale, la liberté de la recherche scientifique est fondée sur le libre accès au savoir où qu'il se trouve. doublé de la souveraineté scientifique présentée précédemment, cette liberté de recherche scientifique des États a longtemps permis de justifier l'appropriation des savoirs scientifiques locaux, qui étaient considérés comme d'autres ressources, à la libre disposition des États qui venaient à les découvrir. Nous sommes devenus aujourd'hui amnésiques de cette appropriation, mais il est très aisé de l'établir. J'y reviendrai. Avec le développement des techniques d'exploration scientifique et d'exploitation économique dans les espaces hors juridiction des États, sont apparus les premiers traités d'organisation de leur exploration à utilisation. Ces traités ont été adoptés, je vous l'avais dit dans la première leçon, durant la guerre froide. Ils garantissent la liberté d'exploration et la liberté de recherche scientifique des États, mais prévoient aussi désormais, en plus, un régime de protection de ces espaces contre l'appropriation par le premier État venu. C'est ainsi que le principe de non-appropriation a été posé par le traité sur l'espace de 1967, vous voyez ici à l'écran, et rappelé par le traité sur la Lune en 1979, au paragraphe 2 de l'article 11. Ce principe de non-appropriation s'implique en priorité à la propriété publique et aux prétentions souveraines des États. Toutefois, tant les travaux préparatoires du premier traité que les rapports entre droit public de la souveraineté territoriale et droit privé de la propriété privée plaident, à mon avis, en faveur de l'exclusion dans son sillage de toute appropriation privée de ces espaces. C'est d'ailleurs ce que dit le paragraphe 3 de l'article 11 du traité sur la Lune, même s'il n'a pas été, il est vrai, suffisamment ratifié. Par la suite s'est ajoutée la notion de patrimoine commun de l'humanité, ce fameux patrimoine commun avec lequel nous avons commencé la leçon de ce matin. Le traité sur la Lune de 1979, à l'article 11, paragraphe 1, pose ce principe de patrimoine commun de l'humanité, et la Convention sur le droit de la mer de 82, en son article 36, le pose à son tour. Cette notion de patrimoine commun qualifie positivement les espaces que le principe de non-appropriation avait disqualifiés négativement comme des espaces qui doivent être hors d'emprise, tant public que privé. Cependant, je vous l'ai dit, en même temps que la notion de patrimoine commun était calquée sur ces espaces, le projet d'une exploitation des ressources était organisé. Il n'était pas question, en effet, d'exclure et de nous priver de l'extraction de ressources précieuses et de l'exploitation de ces ressources une fois séparées de ce patrimoine commun. Après tout, ce patrimoine est encore ouvert, nous disent ces traités, à l'exploration, à l'utilisation pacifique de tous et dans l'intérêt de tous. Et la seule contrainte est l'organisation commune de cette exploitation qui doit assurer, vous le devinez, un excès et un partage équitable aux avantages obtenus. C'est donc à nouveau le principe de l'accès et du partage des avantages qui constitue la cheville ouvrière, mais cette fois-ci entre le principe de la liberté d'exploration scientifique des États et le principe du patrimoine commun de l'humanité. Et vous voyez à l'article 7 de l'accord BBNJ les trois principes posés les uns à la suite dans cet article, et on comprend très bien le triptyque qui est en train d'être posé dans cet article. Alors ce système d'accès et de partage des avantages n'a pas fait ses preuves, loin de là. Il est simplement envisagé au moment, dans les années 60-70, donc au moment par exemple où il est envisagé dans le traité sur la Lune, il est envisagé avec un moratoire, d'ici qu'il puisse être organisé. Nous savons malheureusement qu'il n'a jamais été organisé. Et le traité n'a pas du tout été, ou très peu, ratifié. Dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce système d'accès et de partage des avantages scientifiques a pu être organisé, mais il n'a pas encore été mis en pratique en raison des retards dans la réglementation par l'Autorité internationale des fonds marins. Mais cela n'a bien sûr pas empêché l'extraction de commencer dans l'un et l'autre cas. Dans le premier cas, elle se fait, nous le savons, de manière sauvage, par quelques États et quelques entreprises qu'ils contrôlent, encadrées tout au plus par le droit privé national de ces États, et par quelques accords internationaux bilatéraux. Dans le second cas, le cas de la mer, les États du Sud global ont pu bénéficier de clauses spéciales pour commencer leurs travaux d'extraction grâce à des entreprises du Nord global et à une aide au développement de ces mêmes États. Dans les deux cas, ce sont les entreprises privées qui en sortent gagnantes et les quelques États qui les contrôlent. En matière scientifique aussi, les États et les communautés scientifiques qui bénéficient déjà de connaissances solides sur les milieux marins et les milieux spatiaux renforcent encore une fois leurs connaissances. Et bien sûr, une remarque essentielle, aucune redistribution des avantages, qu'ils soient matériels ou scientifiques d'ailleurs, n'a encore été mise en place, qu'il s'agisse de ressources génétiques marines ou d'échantillons de roches lunaires. En somme, et comme je l'ai dit au début de la leçon, la notion de patrimoine commun du droit international de la mer et de l'espace justifie, même si elle l'encadre par ce fameux partage équitable des avantages, la poursuite de la pratique d'extraction et d'exploitation des ressources tant matérielles que scientifiques à l'œuvre depuis le XVIIe siècle. Alors il y a fort heureusement une lueur d'espoir et des développements récents. Le nouvel accord sur la biodiversité en haute mer ou en général dans les espaces qui ne relèvent pas de la juridiction d'un État, l'accord BBNJ de 2023, a permis de revisiter la notion d'accès et de partage équitable des bienfaits scientifiques. Alors certes, je vous l'ai dit, cet accord maintient le système que je viens de vous décrire, c'est-à-dire le triptyque, une tension entre la protection du patrimoine commun d'une part et la liberté de recherche scientifique de l'autre. Et puis au milieu, un pont, le système qui autorise l'extraction publique et privée de ressources génétiques marines, pour autant qu'un partage équitable soit organisé et qu'une coopération scientifique ait lieu. Les principes proposés pour l'organisation de cet accès, de ce partage des avantages et la coopération scientifique internationale dans ce cadre sont cependant beaucoup plus avancés dans cet accord, y compris en matière de dématérialisation des données génétiques. Ils évitent notamment, et il faut le souligner, vous le voyez ici à l'article 14 de l'accord BBNJ, ils évitent notamment la monétisation complète des avantages scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la Convention sur la diversité biologique, en prévoyant des modalités de partage scientifique qui ne sont pas monétisées. Mais il me semble toutefois qu'à l'heure de l'interprétation et de la mise en œuvre de cet accord, il me semble toutefois important de rappeler que le régime de partage des ressources génétiques qui est proposé par l'accord BBNJ demeure fondamentalement un régime propriétaire, tant public par les États qui explorent que privé par les entreprises qu'ils contrôlent pour ce faire. Ce régime contredit le bien public de la science protégé par le droit de l'homme à la science et notamment son caractère non appropriable. Par ailleurs, le contenu des obligations de coopération scientifique internationale qui sont rattachées au partage des avantages scientifiques et notamment des ressources génétiques marines demeurent encore très floues. Et ce que l'on peut dire, et c'était mon argument la semaine dernière, c'est que ces obligations de coopération scientifique internationale de l'article 8 devront impérativement être interprétées à la lumière de celles que l'on peut fonder sur le droit de l'homme à la science et sur l'article 15.4 du pacte. Donc je vous renvoie à mon argument dans ce contexte et aux propositions que j'ai faites la semaine dernière pour organiser cette coopération scientifique internationale de manière non propriétaire. Alors j'en viens maintenant à la réforme du régime de propriété privée sur la science et ce sera mon troisième point. Dans cette partie, je vous propose de poursuivre la critique et la réforme de cette dimension propriétaire que l'on observe en droit international de la santé et de la biodiversité, en passant cette fois-ci à l'appropriation privée des sciences. On a vu bien sûr que la distinction est artificielle, parce que chaque fois qu'il y a un État, il y a une entreprise en général, vous l'avez vu, tant en droit de la santé que de la biodiversité tout à l'heure. Mais voilà, pour des raisons pédagogiques, j'ai essayé de séparer les deux arguments. Alors de nouveau, je vais procéder en deux temps. D'abord, je vous parlerai du droit international de la santé et de la propriété intellectuelle dans ce contexte. Et ensuite, je vous parlerai du droit international de la biodiversité et de la propriété intellectuelle en lien avec les savoirs autochtones. Alors je commence avec le premier point, la protection de l'accès ouvert à la science et les limites de la propriété intellectuelle en droit international de la santé. En droit international de la santé, la propriété intellectuelle est critiquée au moins sous deux angles, il y en a d'autres, hein, mais j'ai choisi ceux-là, qui sont autant de restrictions potentielles du droit de l'homme à la science. Celui de la restriction au droit de l'homme d'accéder et de participer à ses bienfaits, que sont les droits de brevet des grands laboratoires pharmaceutiques sur les vaccins et les médicaments, et celui de la restriction au droit de l'homme à accéder et participer à la science, que sont les droits d'auteur des grandes maisons d'édition sur les revues scientifiques. Alors je commence par les brevets sur les médicaments et vaccins et le tournant des années 90. C'est à ce moment-là, en effet, que l'accord ATPIC, donc l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce, de 94, a été adopté. Adopté où ? Adopté au sein de l'Organisation mondiale du commerce par les États membres de l'OMC. Cet accord impose à tous ses États membres de garantir les droits de brevet sur les inventions scientifiques dans tous les domaines technologiques. C'est ce que l'article 27.1 nous dit. Il impose aussi d'en assurer la reconnaissance mutuelle ensuite, partout sur le plan international, c'est-à-dire dans tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce, et donc de façon quasi universelle. Le contrôle de la mise en œuvre de cet accord est assuré de façon très robuste à l'époque, aujourd'hui un petit peu moins parce que l'OMC va moins bien, mais à l'époque c'était vraiment très robuste, par le mécanisme de règlement des différends de l'OMC et ses sanctions commerciales. Alors pour saisir le tournant que l'ATPIC représente, il faut comprendre qu'à ce moment-là, tous les États ne garantissaient pas les droits d'auteur et de brevet dans leur droit national. Et surtout pas du tout de la même manière dans le domaine scientifique. Avec l'ATPIC, les droits d'exclusivité sur les technologies scientifiques et notamment médicales, brevetées, sont devenus durables et presque illimités, tant les exceptions de l'article 27.2, que vous voyez ici à l'écran, sont difficiles à exploiter et justifier. Les brevets se sont alors multipliés dans les domaines des sciences de la vie, avec les conséquences que l'on connaît sur les brevets génétiques et bien sûr dans le domaine médical plus largement. Avec cette multiplication des brevets, les scandales aussi se sont succédés. Certains d'entre nous, les moins jeunes de cet auditoire, les ont vécus, notamment autour de l'accès aux bienfaits de la science médicale, comme les trithérapies dans la pandémie de sida. La réaction au droit international des droits de l'homme ne s'est pas fait attendre. De nombreuses publications ont vu le jour, dès le tournant du millénaire, sur les rapports entre droit international de la propriété intellectuelle d'une part et droit international des droits de l'homme de l'autre. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'un premier regain d'intérêt, une première flamme pour le droit de l'homme à la science s'est développée. Pourquoi ? Parce que le droit de l'homme à la science a été perçu à cette époque comme un rempart possible contre la propriété intellectuelle. Le droit de l'homme à la science était en effet un levier potentiellement beaucoup plus puissant que d'autres droits de l'homme comme le droit à la vie ou la santé, parce que le levier du droit de l'homme à la science est interne à la protection de la science, cette fois-ci. Science qui était devenue elle-même un objet d'un droit de l'homme. Et donc on ne pouvait plus opposer la liberté du chercheur, de l'entreprise qui brevette sa science, au droit de l'homme, à la santé ou à la vie des autres. Tout à coup, la question devenait une question interne au droit de l'homme à la science. Alors dans ce sillage sont parus deux rapports très réussis de la rapporteuse spéciale sur les droits culturels, l'un sur les droits d'auteur en 2014 et l'autre sur les brevets en 2015. Ces rapports souffrent toutefois, je l'ai dit déjà, d'une profonde indétermination sur la notion de bien public et de bien commun et sont malheureusement, comme le reste des documents qui existent aujourd'hui sur le droit de l'homme à la science, largement fondés sur la notion économique de ces biens, qui est la notion onusienne, on peut dire, aujourd'hui. À ce titre, les propositions qui sont faites par la rapporteuse spéciale pour recalibrer les choses dans les rapports entre propriété intellectuelle et droits de l'homme à la science ne permettent pas, à mon avis, de s'extraire de la logique propriétaire à l'œuvre en droit international de la propriété intellectuelle, y compris en droit de la santé. Au contraire, elle repose sur cette même logique. D'ailleurs, le fait que la protection du bien public de la science doive habituellement se faire au travers d'exceptions au droit de la propriété intellectuelle. Hein. Donc il faudrait utiliser la petite place qu'on donne encore à la science pour pouvoir vaincre ou lutter contre le droit de propriété intellectuelle, confirme ce déséquilibre. Bien sûr, rendre le recours à ces exceptions obligatoires sur la base du droit de l'homme à la science, comme le propose la rapporteuse, est un pas dans la bonne direction. Mais ce n'est qu'en inversant la relation entre le principe, qui actuellement est celui de la propriété privée sur la science, et l'exception, qui est actuellement le bien public de la science en droit international, ce n'est qu'en inversant ce rapport entre le principe et l'exception que nous pouvons espérer protéger la science, le droit de l'homme à la science. En fait, tout le discours d'équilibre, qui est le discours qu'on observe dans les publications de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui est un discours qui plaît, parce qu'il est équilibré, on nous dit qu'il faut équilibrer le droit des brevets avec les droits de l'homme, ce discours-là aussi doit être critiqué. Qu'est-ce qu'il fait, ce discours ? Il met le droit de propriété privée sur la science et le droit de l'homme à la science sur un pied d'égalité. Elle les considère comme potentiellement compatibles. Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas des droits de l'homme, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, et lorsqu'ils entrent en conflit avec les droits de participer à la science et avec les droits des créateurs scientifiques, ils ne doivent pas être traités comme des droits égaux à mettre en balance. Au contraire, ce sont les conditions très strictes de justification des restrictions de droits de l'homme à la science et la protection du noyau intangible du droit de l'homme à la science que je vous ai présenté dans la leçon de la semaine dernière, qui doivent s'appliquer ici. Et vous souvenez que les critères de justification étaient extrêmement stricts. Et c'est sur cette base qu'une réforme en profondeur de l'ADPIC doit impérativement être mise sur les rails par ses États membres, les États membres de l'OMC, qui sont aussi les États parties au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, et qui doivent donc des obligations en vertu du droit de l'homme à la science. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que revenant en mars de cette année, sur la crise du coronavirus, la nouvelle rapporteuse spéciale sur les droits culturels a reconnu que ces recommandations de 2012, 2014 et 2015 concernant la mise en place d'un système d'exception au régime international de la propriété intellectuelle n'avaient pas été mises en œuvre. Et on serait déçus à moins. En automne 2020, au plus fort de la pandémie de Covid, l'Afrique du Sud et l'Inde ont demandé à l'Organisation mondiale du commerce de pouvoir bénéficier d'une suspension du droit des brevets sur les vaccins afin de permettre leur production dans et pour les pays en développement. L'OMS elle-même avait soutenu cette initiative, mais de nombreux États développés, dont le mien, la Suisse, se sont efforcés d'abord de bloquer cette demande, de temporiser, puis d'affaiblir entièrement le contenu de la décision de l'OMC qui a été rendue en juin 2022. Le 30 août 2023, c'est le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies qui, dans une décision prise en mesure d'urgence, a exprimé sa préoccupation et a vivement condamné la décision de l'Allemagne, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis de ne pas avoir suspendu les brevets sur les vaccins Covid et d'avoir donné la priorité, encore une fois, aux intérêts privés des entreprises propriétaires et détentrices de ces brevets. Plus récemment, et ce sera mon deuxième point, le droit international de la santé a été secoué par une deuxième crise, cette fois-ci relative à la limite aux droits de l'homme à accéder et participer à la science, que constituent les droits d'auteur des grandes maisons d'édition sur les revues scientifiques, y compris médicales. Alors, le mécanisme est bien connu. Les scientifiques cèdent leurs droits d'auteur aux revues scientifiques, je le fais tout le temps, dans lesquels ils publient. Et ces revues revendent ensuite le droit d'accès à ces publications aux institutions de recherche de ces scientifiques. Donc elles vont revendre les droits d'accès à mes articles au Collège de France et à l'Université de Fribourg, limitant au passage l'accès, y compris le mien, à mes propres recherches scientifiques publiées, mais aussi l'accès de tout un chacun dans le monde et appauvrissant d'autant mes institutions de recherche, le Collège de France et l'Université, dont les bibliothèques vont se ruiner parfois. On peut parler d'institutions de recherche dans le monde qui ne sont pas aussi bien dotées que les nôtres, vont se ruiner à racheter les droits d'accès à ces publications. Alors, pour tenter de briser ce cercle vicieux de la commercialisation des savoirs scientifiques, différentes possibilités ont été avancées de manière à exploiter les faibles exceptions notamment celle de l'article 27.2 ADPIC dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi de la Convention de Berne, qu'offre le droit international des droits d'auteur. Il s'agit par exemple, on les connaît, de différents modèles d'accès ouvert, d'open access, ou encore l'exception qui est prévue par la directive de l'Union européenne de 2019 sur le data mining, donc la fouille et l'exploration de textes par intelligence artificielle. Il faut aussi mentionner les systèmes de licence ouverte, comme Creative Commons, qui sont d'ailleurs développés par des personnes privées. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, ces propositions ne permettent pas de s'extraire de la logique propriétaire à l'œuvre. Elles sont habituellement payantes. Même la recommandation de l'UNESCO de 2021 pour une science ouverte, dont vous avez ici à nouveau un extrait, même cette recommandation, qui est récente et qui ne parle que de cette question, ne parvient pas à dépasser l'horizon, le cadre du droit international de la propriété intellectuelle. Dans son préambule, elle rappelle l'importance, et puis ensuite, dans le paragraphe 20H, elle se repose expressément sur ce cadre. Pour toutes les raisons que j'ai avancées précédemment, seule une inversion juridique et institutionnelle de la relation entre le principe, la propriété privée et l'exception, le bien public de la science, pourra protéger la science et pourra être considérée comme à la hauteur des obligations que pose le droit de l'homme d'accéder et de participer à la science et les droits des créateurs scientifiques sur leur création. Alors j'en viens maintenant à des savoirs scientifiques particuliers qui sont les savoirs autochtones, parce qu'eux aussi sont en prise avec les droits de propriété intellectuelle, mais de manière curieusement inversée. Ce sera mon deuxième et dernier point. Alors pour celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir assister au séminaire de Philippe Descola il y a 15 jours, la protection des savoirs autochtones contre différentes formes d'appropriation dans la biopiraterie a rapidement débouché, on le sait, sur l'adoption de régimes de propriété intellectuelle visant à protéger ces savoirs. Comme l'a expliqué la rapporteuse spéciale sur les droits culturels en 2015, il existe deux approches de l'utilisation de la propriété intellectuelle pour protéger le patrimoine bioculturel des peuples autochtones. Une approche défensive et une approche active ou positive. L'approche défensive cherche à prévenir à tout prix le brevetage des savoirs traditionnels par les tierces parties. Elle cherche à protéger ces savoirs contre les droits de propriété intellectuelle. L'approche positive, en revanche, cherche à tirer profit de la propriété intellectuelle des peuples autochtones pour leur donner un contrôle plus grand sur leur savoir. Parce que ces peuples sont divisés sur la question, entre eux ou au sein du même peuple. Et peut-être aussi, certainement, parce qu'ils ont durant longtemps été totalement marginalisés des procédures d'adoption du droit international de la propriété intellectuelle comme l'OMPI, et donc de ce qu'ils considèrent, à tort je l'ai dit, mais qu'ils ont le droit de considérer ainsi, comme les modes de protection de la science moderne, c'est l'approche positive qui a été retenue en droit international. La crainte, en effet, est que sans cette protection par le droit international de la propriété intellectuelle, ces savoirs autochtones soient considérés par défaut comme relevant du domaine public et puissent être appropriés par quiconque sans reconnaissance de leurs origines ni de leurs créateurs. C'est ainsi que les peuples autochtones se sont vus reconnaître en 2007, dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des droits de propriété intellectuelle sur leurs savoirs sous la forme de véritables droits de l'homme. Alors, il est aisé de comprendre que sur un plan stratégique, cette approche positive de la propriété intellectuelle sur les savoirs autochtones ait été retenue. C'est une forme de légitime défense contre l'appropriation privée. Cependant, vous l'aurez compris, l'adéquation de la propriété intellectuelle à cet effet doit être remise en cause sur un plan normatif. Les droits de propriété intellectuelle vont à l'encontre, je l'ai dit, de la valeur inhérente, collective, culturelle et historique des savoirs autochtones, des caractéristiques qui sont d'ailleurs aussi celles de tous les savoirs scientifiques, y compris les savoirs scientifiques européens présentés comme des savoirs individuels, universels et ahistoriques. Les droits de la propriété intellectuelle instrumentalisent, individualisent, coupent ces savoirs de leur contexte culturel et historique. Ces droits de propriété intellectuelle font donc tout sauf protéger ces savoirs autochtones comme des savoirs scientifiques. De ce fait, ils violent aussi le droit de l'homme à la science dont bénéficient les savoirs autochtones, au même titre, je l'ai dit, que tous les autres savoirs scientifiques qui sont contestables et fiables. Même si cela peut paraître contre-intuitif, protéger véritablement ces savoirs contre la biopiraterie et l'appropriation privée requiert précisément d'éviter de les soumettre à un régime de propriété privée. Il faudrait plutôt saisir cette occasion pour étendre la même protection publique et non propriétaire du droit de l'homme à la science à tous les savoirs, plutôt que de perpétuer la différence de traitement entre eux, en laissant les communautés autochtones privatiser leur savoir et renoncer ainsi à la protection du droit de l'homme à la science. Il y a là, je trouve, une forme de paternalisme inversé, voire même une forme d'anti-paternalisme capitaliste, contre lequel il faut absolument résister, mais dont on trouve des traces jusque dans l'Observation générale 25 de 2020. La propriété intellectuelle, c'est bon pour les savoirs autochtones, mais ça n'est pas bon pour les autres savoirs, d'après l'Observation générale. Vous voyez la contradiction. Il est vrai toutefois que même si les savoirs autochtones peuvent être protégés par les différents droits scientifiques relatifs aux droits de l'homme à la science que je vous ai présentés ces deux dernières semaines, cela ne suffira pas. Et en cela, ils ont raison. En cas d'appropriation des savoirs, il est vain de vouloir protéger la science par des droits scientifiques de participer et de coopérer avec des personnes qui ne précisément ne souhaitent ni participer ni coopérer avec vous. Elles souhaitent simplement s'approprier vos savoirs. Alors comment faire ? Eh bien, premièrement et dans l'immédiat, il faudrait spécifier les obligations qu'on peut tirer de l'article 15.1c du pacte, dont je vous ai parlé longuement ce matin, et appliquer la protection des droits des créateurs scientifiques aux communautés scientifiques autochtones. Cela pourrait être le cas d'abord de droits moraux des créateurs scientifiques de ces communautés. Pour bien les protéger, il faudrait enfin reconnaître publiquement l'existence des savoirs autochtones qui ont été artificiellement coupés et enlevés à leur communauté scientifique et à leurs créateurs scientifiques, en les réattribuant nommément et pour toujours à ces communautés créatrices de savoir. C'est après tout ce que nous faisons un peu pour le savoir de Tupaya et ce savoir autochtone de navigation polynésien, dont nous pouvons associer le nom désormais au savoir de navigation de James Cook, j'en ai déjà parlé. Ensuite, les intérêts matériels des communautés scientifiques créatrices devraient bien entendu aussi être protégés par le biais de dédommagements qui pourraient permettre aux communautés autochtones dont les savoirs ont été appropriés de vivre dignement de leur création. Et ce, au titre d'un droit de l'homme à vivre de son travail de créateur scientifique, et non pas au titre du fruit de la vente des droits de ses créateurs. Deuxièmement, et pour l'avenir, il faudrait absolument proposer, ou stopper, tant qu'il est temps, cette extension des droits de propriété intellectuelle spéciaux des peuples autochtones, à la lumière de l'article 15.1c du pacte, voire même proposer leur suspension complète par la réforme du droit existant. À la place, il faudrait organiser de manière urgente des modes de coopération internationale entre scientifiques qui visent à la coproduction des savoirs dans le respect mutuel plutôt qu'à l'appropriation et l'échange des ressources. C'est après tout le sens de l'article 15.4, dont je vous ai parlé longuement la semaine dernière et sur lequel je n'y reviens pas. Et c'est tout l'enjeu maintenant que d'organiser cette coopération scientifique internationale au sein de l'accord BBNJ, mais aussi beaucoup plus largement en nous fondant sur le droit de l'homme à la science. Alors pour cette application du droit de l'homme à la science et de cette coproduction scientifique avec les savoirs autochtones, je vous renvoie aux travaux de ma collègue philosophe Michela Massimi. Dans la prochaine leçon, Je poursuivrai mon travail de réinterprétation des différents régimes du droit international de la science. Et les régimes dont je traiterai la semaine prochaine sont le droit international de l'environnement et le droit international biomédical. On retrouve un peu cette opposition biodiversité et santé, c'est intéressant. La question dont je traiterai sera celle de l'anticipation des menaces liées aux sciences à dangers potentiels graves et irrémédiables, comme la géo-ingénierie ou le génie génomique. Je vous proposerai une critique et une réforme de la manière dont le droit international a lentement mais sûrement remplacé l'anticipation des dangers que peuvent poser certaines nouvelles technologies par une science de l'anticipation de ces dangers et par l'auto-validation scientifique. Alors je vous remercie de votre attention et je vous dis, je l'espère, à cet après-midi pour le 4e séminaire qui nous sera donné par Olivier Beau de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur la liberté académique. J'attire votre attention sur un changement de salle. Nous serons en salle 2 et plus en salle 5. Mais nous sommes bien sûr au Collège de France et donc vous êtes au bon endroit. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un bon appétit. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.